Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir, nous nous retrouvons ensemble dans ce début de semaine pour la suite du roman de Jean-Claude Izot, Les Marins perdus. Abdoul but une gorgée, mais sans plaisir. L'absence de ses fées lui fit mal. Il voulait la sentir près de lui quand il revenait. Elle et les enfants. Pour se persuader qu'il était un homme comme les autres, un père comme les autres, qu'il avait une famille et que cette famille, c'était ses seules racines dans le monde. Cette fois-ci, le voyage pour la Hambourg-Sud avait été particulièrement long. La Spezia, Fos-sur-Mer, Barcelone, le Pirée, puis le canal de Suez et Jeddah, Port-Elisabeth, Sydney. Chaque jour, il avait écrit à ses fées. Depuis qu'ils étaient mariés, il s'écrivait quotidiennement, dès qu'il était en mer. C'était sa manière à lui de la garder dans son cœur. Le plus souvent, il lui parlait de son amour, de ses désirs, de ses fantasmes aussi. Librement, sans pudeur. Jamais il ne lui parlait de la vie en mer, des escales. Cela, il le gardait pour le retour, pour les soirées, sur la terrasse à boire des margaritas. Il la rejoignit au lit peu après. Le silence de la terrasse, la vue sur la ville, l'alcool même ne l'apaisait pas. Il avait besoin d'être près d'elle, de sentir son corps. Son corps le rassurait. Sa beauté, chaque fois, le ramenait du côté des vivants. Ses fées sanglotaient. Ses fées, qu'est-ce qu'il y a? Ses fées, ma chérie, j'en ai assez. De quoi? Ses larmes redoublèrent. Il alluma la lampe de chevet et une douce lumière ocre les éclaira. Elle tira le drap sur elle et le tint serré sur ses seins d'une manière enfantine. De quoi, ses fées? Lui redemanda-t-il inquiet. Son regard l'implora. T'en es pas encore rassasié du monde? La question l'avait surpris. Il s'attendait à tout, mais pas à ça. Les départs, les navires, la mer, c'était sa vie. Leur vie, à lui et à elle. Un accord tacite dès la première nuit où ils avaient couché ensemble. C'est ma vie, tu sais bien. Et je suis où dans ta vie? Elle s'était redressée. Elle ne pleurait plus, mais ses yeux brillaient de mille larmes encore possibles. Ses fées, il ne l'avait jamais vue pleurer qu'une seule fois, quand il lui avait demandé d'être sa femme. Ses fées, où elle est ta vie? À Port-Adélaïde, à Colombo, à Anvers, à Valparaiso, où ça, hein? Et où je suis, moi? Abdoul, je suis où dans tout ça? Ici? Chez nous? Ici? La réponse sembla l'étonner. Ici, répéta-t-elle pour elle-même. Ouais, ici. Il ne sut quoi dire. Jamais il n'aurait pu imaginer que ces fées remit en cause leur existence. Pour lui, tout était simple. Il partait, il revenait. Il la quittait, il la retrouvait, et il s'aimait. Il s'aimait, non? Voilà l'essentiel. Il voulut le lui dire, mais il garda le silence. Cette discussion n'avait aucun sens. T'as rien à me dire? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est fait, je comprends pas, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que j'en ai marre d'attendre, de t'attendre, marre, moi et les enfants. Voilà ce qui m'arrive, Abdoul. Sa voix était basse, sans colère, presque un murmure, une voix lasse. « Tu ne m'en as jamais parlé ?» lui répondit-il doucement. « Dans tes lettres ?» « Les lettres, les lettres !» Elle explosa. « Merde, Abdoul !» Ses fées bondit hors du lit et traversa la pièce d'un pas décidé. Il y avait un placard dans le mur. Elle l'ouvrit. Dans le bas étaient empilées des enveloppes, des centaines d'enveloppes, ses lettres. « Tes lettres, elles sont là, tu vois, année après année. Tu veux que je fasse quoi avec ? Que je mange en tête à tête avec elles ? Que j'aille me promener avec elles ? Que je me couche avec ? Que je baise avec ? Un dis-moi. » Il y eut un silence. « Ma vie avec toi, tu veux que ce soit ça ?»« Non, » il murmura. Il était désemparé, perdu. Mais il ne comprenait toujours pas pourquoi ce qui était vrai avant son départ pour Adélaïde ne l'était plus à son retour. Il se leva et s'approcha d'elle. Il voulait la prendre dans ses bras, la consoler, lui expliquer encore une fois, et comme il l'avait toujours fait, l'importance que la mère avait pour lui. « Non, » il avait répété. « Moi non plus, Abdoul, parce que je vais te dire, si c'est comme ça que tu vois les années à venir, ce sera sans moi, et avec tes lettres, je me torcherai le cul. » Il la gifla. Il l'avait giflée, au lieu de la prendre dans ses bras. La terre sous ses pieds sembla se dérober. Il se sentit vaciller, sombrer. Il avait fermé les yeux à l'instant même où sa main avait claqué sur la joue de ses fées, comme pour en amortir la violence. Et il se dit qu'il n'y avait pas de geste irréparable. C'est son père qui affirmait cela. Il espérait que c'était vrai. Ses fées ne bougea pas. Elle resta devant lui, droite, fière. Il réalisa combien elle était belle. Aucune femme au monde ne pourrait la remplacer dans son cœur. Mais il ne trouvait aucun mot pour s'excuser de ce geste. C'est elle qui rompit le silence. Dans ses yeux, il n'y avait plus de larmes, que de la détermination. « Je t'aime, » elle dit doucement. « Moi aussi, je t'aime. Alors réfléchis bien à tout ça, Abdoul. Moi, je t'en parlerai plus. » Elle retourna se coucher. Quand il sortit de la chambre pour aller se chercher un mécarios, elle éteignit la lumière. C'est à cet instant qu'il l'avait perdue. C'est à cet instant que je l'ai perdue, admit-il enfin en finissant son café. Il y a des gestes irréparables, mais on ignore lesquels ce sont. Il concentra son regard sur les voiliers amarrés dans le port de l'autre côté de la rue. Cela l'apaisa. Il commanda un second café. Abdoul Aziz s'était levé tôt et il avait quitté l'Aldébaran sans même prendre le temps de déjeuner ni même d'avaler un escafé. Il n'avait eu aucune envie de croiser Diamantis, pas envie de parler, de lui parler. Il était tendu, nerveux. Il n'y a pas pire naufrage que celui de sa vie, s'était-il dit en regagnant sa cabine la nuit dernière. Allongé sur sa couchette, il avait écouté Duke Ellington, Money Jungle, un de ses albums préférés. Duke y jouait en trio avec Charlie Mingus et Max Roach. Il avait donné là la version la plus sublime de Solitude. Mais sur cette cassette, c'est African Flower qu'il préférait. Il l'avait repassé 4 fois, puis il s'était endormi, épuisé, sur les premières notes de Caravan. Très tôt, il s'était rendu à la mission des gens de mer pour téléphoner à ses fées. Depuis 3 jours, il avait essayé plusieurs fois le soir, mais en vain. Tôt le matin, il s'était dit qu'il avait peut-être plus de chance. Mais Abdoul Aziz était à peine entré dans les locaux que Berthou, le directeur adjoint, s'empressa de l'informer des nouveaux déboires de Constantin Takis, son armateur. Aldébaran n'était plus le seul à être coincé à quai. Aujourd'hui, 39 de ses navires étaient bloqués dans le monde. De plus, lui précisa Berthoud. Une action pénale était en cours contre Constantin Takis. La justice grecque venait de le condamner à 3 ans de prison et à 20 000 $ d'amende pour infraction à la législation commerciale. Abdulaziz ne commenta pas ces informations, il se contenta de hocher la tête en écoutant Berthoud. L'avenir du cargo ce matin, il en avait vraiment rien à foutre. Il voulait parler à ses fées, l'entendre, entendre sa voix et se rassurer, pour voir se dire que s'il revenait dans 2 ou 3 jours, elle serait là. L'idée lui trottait dans la tête depuis cette nuit. Il y avait repensé dans le bus qu'il l'avait emmené place de la Joliette. Il pouvait rentrer à Dakar. Rien ne l'empêchait. Il parlerait, ses fées et lui, il s'aimait, donc une solution existait. Quand il avait négocié le départ de l'équipage, on lui avait laissé entendre que la Fédération internationale des ouvriers du transport pouvait s'occuper de son rapatriement si la situation empirait. Il pouvait négocier ça, son rapatriement, et celui de Diamantis aussi. Il a fait appel, ton armateur. « Oh, ça ne m'étonne pas, répondit-il évasivement. C'est un malin. » Constantin Takis avait réussi en moins de 10 années à se placer au 12e rang des groupes maritimes grecs par le tonnage et en second pour le nombre de navires. Il avait commencé avec 2 petits tankers, puis il n'avait cessé de grossir pour bientôt faire naviguer 86 bateaux, tankers, vraquiers, rouliers et navires réfrigérés. Abdulaziz le connaissait bien. Constantin Takis. Ils étaient de la même promotion à l'école de la marine marchande. Un arriviste. Mais depuis 1983, il avait une dette envers lui, une dette d'honneur. Il n'avait accepté le commandement de l'Aldébaran que pour cette raison, payer sa dette et enfin ne plus rien devoir à personne. Mais cela, tout le monde l'ignorait. « Je peux téléphoner ? » demanda-t-il sans plus écouter Berthoud. Il n'était pas loin de 9 heures maintenant, tout en comptant les sonneries. Abdulaziz s'affola à l'idée que le téléphone sonnait dans un appartement que ses fées auraient vidé de toutes ses affaires. Combien de types avait-il connu à qui cela était arrivé ? Des dizaines. Il prenait un taxi pour rentrer chez eux, plus pressé que d'habitude, devinant sans doute que depuis 5, 6 ou 7 mois, ce « chez eux » n'était plus le leur. Dans l'appartement, dans le salon peut-être, une lettre où leur femme explique qu'elle a rencontré un autre homme, que cet homme est là 7 jours sur 7, tous les mois de l'année, et que tout bien réfléchi, c'est ainsi qu'elle voit la vie. « Non, c'est fait. Pas toi, pas toi. » Il avait raccroché à la 10e sonnerie. Non, impossible, ses fées n'agiraient pas ainsi. Elle était capable de tout, des pires colères, oui, mais pas de faire ça. Elle n'était pas comme les autres. Elle ne pouvait pas être comme les autres, toutes les autres. Ses fées qu'il avait tenues dans ses bras, bercées, il se rassura.
Elle dansait le soir dans l'American Bar au coin d'une rue de la Joliette. Les marins anglais pour elle chantaient en chœur des chansons de tempête, la chanson des mers froides des flots verts qui battent les falaises grises, les îles perdues et les grands docks nus droits sous la pluie de la Tamise. La blancheur du nord aux glaces du bar mettait un halo électrique et les matelots des péninsulaires rêvaient sourdement du tropique. Plus d'un fut laissé mort sur le pavé dans l'aube au coin de la ruelle. Nul ne se vantait de l'avoir touché. On ne savait qui protégeait la belle. La fille enchantée, torride passait comme un poison dans les soirs rouges. Pourtant un matin, la trouva le sein ouvert sur la porte du bouge. Le bar est fermé, la glace est brisée. Il y a des gens de la police. On ne chante plus, on ne danse plus. Le patron du bar est en fuite. Mais ce n'est pas lui qui a fait le coup. C'est le crime d'un équipage, d'un sloop hollandais qui, au Féroé, depuis vient de faire un naufrage.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Les marins perdus, Jean-Claude Izot. 6 mois après son retour d'Adélaïde, les choses avaient repris leur cours normal. Le matin, il se levait tôt et il s'occupait des enfants. Il les conduisait à l'école française, puis il accompagnait Céphée à l'hôpital. Depuis 2 ans, elle y était médecin-chef en pédiatrie. Le soir, il refaisait le chemin en sens inverse. Une vie paisible, des jours heureux. Il n'avait jamais parlé de cette nuit-là. Même quand il lui annonça qu'il repartirait dans 1 semaine. J'en ai pour 20 jours, se justifia-t-il. C'est juste pour rendre service à Constantin Takis. Tu te souviens? Je lui dois bien ça. Elle se souvenait de Constantin Takis. En septembre 1983, quand les soldats israéliens se retirèrent du Liban, les milices druzes, soutenues par les Palestiniens dissidents d'Abdul Moussa, avaient mis à feu et à sang le mont Liban. Massacre de population, maisons pillées, villages détruits, toute la famille d'Abdul avait fui comme les 2/3 de la population chrétienne du Chouf. Son père et sa mère, terrorisés, sans argent, avaient trouvé refuge dans un appartement de Beyrouth Est, abandonné par d'autres chrétiens à 50 mètres de la ligne de démarcation. Son père lui avait téléphoné pour qu'Abdul les aide à s'enfuir. Takis dévia un de ses cargos vers Beyrouth. Il fit embarquer toute la famille à bord, direction Limassol, où, à ses frais, il installa les parents d'Abdul à l'hôtel, le temps de voir venir. Alors mal en point, l'armateur avait jugé opportun de s'entourer de capitaines à la notoriété irréprochable. Abdul Aziz était de ceux-là et il ne pouvait refuser ce petit service. Son nom rassurait les clients, les équipages aussi. Même Diamantis s'était laissé bluffer. C'est en arrivant à la Spezia qu'Abdul réalisa que pour ses faits, rien n'était plus comme avant. Une lettre l'y attendait. J'ai cru, quand tu as quitté la chambre, que tu reviendrais et que tu m'aurais parlé. Il était resté sur la terrasse à boire et à fumer, laissant vagabonder son esprit, loin de cette maison, loin des enfants, loin de ses fées, à revivre des voyages passés, à ressusciter des amours passagères, une autre vie, la sienne. Sa vraie vie, avait-il pensé jusque-là. Puisque tu es incapable d'envisager une autre vie, alors c'est moi qui vais le faire, poursuivait-elle dans sa lettre. Abdul, je t'aime, mais je crois que je vais te quitter. Parce que notre amour ne survivra pas à tout ça. Une gifle, c'est déjà trop. Je n'en supporterai pas 2. Abdul se leva et régla ses 2 cafés. Il avait besoin de marcher, de se perdre dans la ville. Marseille, il le savait, était la seule ville du monde où l'on ne se sentait pas étranger. Personne n'y était un étranger. D'où que l'on vienne, de n'importe quelle race. A priori, on ne pouvait être que Marseillais. C'est ce que disait le regard des gens, un sentiment unique d'universalité. Abdulaziz remonta une partie de la Canebière, puis, passé le cours Saint-Louis, prit la rue des Feuillants pour rejoindre ensuite l'étroite rue longue des Capucins, Là, il plongea dans la foule colorée et compacte qui faisait son marché. Les étals sentaient bon les odeurs du monde entier. C'était Barcelone et Shanghai, Rome et Bombay, Alger et Valparaiso. Il se prit enfin à penser à l'avenir. Dans l'avenir, lui avait dit le sorcier Diouf, un vieil oncle de Séfé, tout existe, parce que tout est possible. Peut-être bien que tout était encore possible. De cette époque-là, Diamantis ne se souvenait que d'une chose, il était follement amoureux. Amina, quand il la rencontra, semblait sortir tout droit des contes des mille et une nuits. Sans doute depuis longtemps avait-elle fait son lit dans sa tête de marin. Le fait est qu'il la reconnut comme s'il la connaissait déjà. Elle déjeunait avec une bande de copains au Sintra, une brasserie sur le vieux port, qui n'existe plus aujourd'hui. Leurs yeux se rencontrèrent quand Diamantis entra, puis se perdirent. Le Stainless Glory, sur lequel il naviguait alors, venait de faire escale à Marseille. Pour lui, c'était toujours un émerveillement d'entrer dans la rade. Il ne pouvait dire pourquoi, mais chaque fois qu'il débarquait dans le port, il avait le sentiment de revenir chez lui. Il aimait l'odeur de Marseille. Cette ville sentait. Peut-être pas l'œillet poivré, comme l'avait décrit Blaise Cendrars, mais quelque chose d'approchant, entre basilic et coriandre, avec une pointe de poivre et de cannelle. Un bonheur l'attendait à peine à quai. Le D'Artagnan que commandait son père était amarré parallèle au sien au Mol E, dans le bassin de la Pinède. 3 ans qu'il ne s'était pas revu. Quand il était à Athènes, son père était en mer et vice-versa, et lorsqu'ils naviguaient tous deux, des écarts de plusieurs semaines les séparaient aux escales. Un message de son père l'attendait au poste de contrôle. Il fixait rendez-vous au Sintra. Il commanda une mauresque et attendit au comptoir qu'une table se libère. Ses yeux cherchèrent à retrouver ceux d'Amina. Elle semblait plus réservée que ceux qui l'accompagnaient. Mais peut-être était-ce parce qu'elle se sentait observée. À un moment, elle leva franchement la tête vers lui, l'observa et lui sourit. Son père avait posé son bras sur son épaule à cet instant. Il se retourna vers lui sans répondre au sourire d'Amina. Le repas avec son père ne fut pas comme il l'avait espéré, mais qu'avait-il espéré? Il ne le savait pas. Un miracle, sans doute. Cet homme qui lui avait tant appris, qui lui avait donné le goût de la mer, des voyages, cet homme dont il allait renifler les habits pour tenter d'y découvrir une odeur d'Afrique ou d'Asie, ces continents qui le faisaient rêver, cet homme n'existait pas. Il n'était plus son père, mais un mythe. Une espèce d'Ulysse qui, pour lui, réécrivait Homère dans la langue des cargos. Ils avaient trop en commun. Et plus rien à se dire. Ils parlèrent peu, ils se séparèrent devant l'hôtel de ville après avoir traversé le vieux port avec le ferry boat. Le D'Artagnan reprenait la mer le soir même. Je fais ça chaque fois que je viens à Marseille, à traverser un rite. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Une ville si immense qui se donne totalement en quelques minutes de traversée. Regarde, c'est beau. Diamantis avait souri. Lui aussi, il aimait bien prendre le ferry boat. Ce matin, après avoir bu un café avec Toinou, il avait commencé sa journée comme ça, sur le ferry boat. Une cigarette aux lèvres, le regard tourné vers l'entrée du port, il avait laissé le souvenir de cette journée-là l'envahir. Le sourire d'Amina, malgré le temps, malgré la vie, n'avait pas pris une seule ride. La porte s'ouvrit sur un homme d'une 60aine d'années, Mazzetto, l'archétype de l'Italien du Sud, petit, maigrelet, mais nerveux, les cheveux frisés et la peau mate. Diamantis ne l'avait jamais rencontré, seulement croisé une fois dans la rue. Rue d'Aubagne, c'était, un hasard. Amina et Diamantis sortaient d'une pizzeria. Il avait changé de trottoir pour ne pas avoir à leur parler. Ce n'était pas un homme courageux, ni même le meilleur des pères, pour le peu qu'Amina ait osé lui raconter. Diamantis ne se présenta pas. Il dit seulement « Je cherche Amina. Je voudrais savoir où je peux la trouver. » « Qui êtes-vous ? » il demanda. Le visage de Diamantis ne lui disait strictement rien. « Un ami ?»« Je ne connais pas ces amis et j'ai rien à faire avec eux. » Mazzetto voulut refermer la porte, mais Diamantis la bloqua du pied. S'il ne s'imposait pas, il perdait tout espoir de retrouver Amina. Son père, c'était la seule piste qu'il avait. Et c'était une chance qu'il n'eût pas déménagé en 20 ans. « Chez nous, on déménage peu », avait affirmé Toinou, quand Diamantis s'était mis à éplucher l'annuaire. « Faut vraiment qu'on y soit obligé, alors tu vois ton bonhomme, t'as toutes les chances de le retrouver où tu l'as quitté. » Du quai de Rive-Neuve, Diamantis était parti à pied jusqu'à la place Saint-Eugène, dans le vieux quartier d'Andoume. Une butte qui surplombe l'anse de Malmousque. Ça grimpait dur, mais cela lui faisait un bien fou de se dérouiller les jambes. Les villes qu'il aimait, il fallait qu'il les parcourt en tous sens. Les vraies villes, celles qui ont une histoire à raconter, ne se livrent qu'ainsi. Le Caire, Buenos Aires, Shanghai étaient de celles-là, et Naples, et Alger bien sûr, Saint-Pétersbourg, Prague peut-être aussi, et Rome, mais pour d'autres raisons. On s'y sentait inspiré plus qu'elle n'inspirait. Marseille, presque aussi ancienne que Rome, avait sa préférence. Peut-être parce que plus que tout autre, elle était simple et confuse, mal foutue, d'un esthétisme parfois à faire pleurer ou rire architecte et urbaniste. Elle restait pour Diamantis la ville la plus mystérieuse du monde, la plus humaine. La maison à 2 étages de la traverse Fouque n'avait pas dû changer depuis sa construction. Il n'y avait pas de sonnette à la porte d'entrée et celle-ci n'était pas fermée à clé. Le père d'Amina habitait au 2nd étage gauche. C'était inscrit sur la boîte aux lettres. « Je veux son adresse !» ordonna Diamantis. Mazzetto était gagné par la peur. Il devait être seul dans l'appartement et il avait compris qu'il ne pourrait repousser son visiteur. Il faisait partie de ces gens qui n'étaient courageux qu'à plusieurs ou armés et avec quelques bières dans le bide. Petit fonctionnaire de l'administration française au Maroc, il avait acheté plus qu'épouser la mère d'Amina pour sa beauté et pour la baiser. C'était moins cher que d'aller aux putes tous les soirs. Quand il fut obligé de revenir en France, il eut honte de se trimballer avec une arabe à son bras. Ses voisins, les commerçants du quartier, le prirent lui aussi pour un arabe, ce qui, dans les années 60, n'était pas encore une insulte. Il se mit à taper sa femme chaque soir, en rentrant du boulot. Peut-être qu'il l'aimait vraiment, avait répliqué Diamantis à Amina, le jour où elle lui avait raconté tout ça. « Ouais, elle avait répondu, c'est ça. Et moi, tu crois aussi qu'il m'aimait en foutant ses grosses pattes sur mes fesses ?»« Ce type, il pense pas plus loin que sa queue. Tu veux que je te dise, s'il avait eu de l'argent, il aurait acheté plusieurs femmes. Je l'ai entendu dire ça un soir à des potes qu'il avait invités à venir bouffer un couscous. Plus t'as de femmes à la maison, plus t'es un homme fort. Ouais, c'est ça qu'il disait, mon père. » « Un vrai fondamentaliste, avait plaisanté Diamantis, tu parles. » Ce soir-là, il était même prêt à me vendre à un de ses copains, pour la nuit, je veux dire. Le mec, un enculé de parachutiste reconverti dans la vente des bateaux, il avait mis 500 balles sur la table. Ça s'est pas fait, parce que ma mère a menacé de se jeter par la fenêtre. Elle hurlait, et ils ont eu peur que les voisins appellent les flics. Plus il regardait ce type, Diamantis, et plus il avait envie de lui cogner dessus. Mais il n'en avait nullement l'intention. Des années étaient passées, et rien ne l'autorisait à juger le père d'Amina. Lui-même n'avait-il pas agi comme un salopard, en se tirant comme il l'avait fait. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Jean-Claude Izot, Les Marins perdus, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir. «
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.